Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons reprendre l'émission de la semaine dernière sur la construction de la pyramide de Khéops. Je vous avais laissé trois indices et aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais vous donner en tout cas mon explication sur les processus de construction de la pyramide de Khéops. Bon, cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire une réflexion sur la technique. Alors, il est bien entendu aujourd'hui que nous sommes une civilisation technique et il y a aussi des idéologies, notamment portées par l'écologie politique, qui sont, on peut dire, anti-techniques. Donc il y a toute une école de pensée qui attribue à la technique tous les maux de notre siècle. Alors d'une part, je pense qu'on oublie souvent de dissocier la science qui est cumulative au cours des âges avec, on peut dire, une grande rupture au XIXe siècle, où les grandes découvertes scientifiques ont été faites à cette époque-là, mais la technique n'est pas un processus cumulatif. La technique, ce n'est pas elle qui crée les changements de civilisation ou les évolutions comme on peut le croire, mais la technique, comme l'intendance, la technique vient après. En d'autres termes, chaque civilisation utilise les techniques dont elle a besoin et élimine aussi des solutions techniques auxquelles elle pourrait avoir accès et elle ne prendra que ce qui est utile pour perdurer dans le temps et pour construire justement cette civilisation. Alors nous avons, l'Occident, je pense, une vision assez prétentieuse par rapport à cela, parce qu'on pense qu'il y a des civilisations non techniques et que nous sommes les maîtres de la science et de la technique. Alors, encore une fois, la science, elle appartient à personne. Elle est une série de découvertes qui s'additionnent. Et par contre, les techniques sont adaptées. Alors, évidemment, on va parler essentiellement des techniques liées aux arts, mais elles sont liées en fait aux productions humaines. Par exemple, il y a une imbécilité qui est, à mon sens, très raciste par rapport à l'Afrique, en disant les Africains n'ont pas découvert la roue. Et non, les Africains n'utilisaient pas la roue. Et bien sûr, la roue est une évidence pour tout humain, et je pense qu'elle est aussi vieille que l'humanité. Simplement, son utilisation développe un mode de société tout à fait différent, et que dans un pays immense comme l'Afrique, la roue par exemple, bien, demande des routes. Et si vous avez des routes et des chariots, vous avez une civilisation différente que celle de l'Afrique. Et on a vu le changement qu'il y a eu avec la colonisation, où les sociétés ont muté et ont changé. Donc en fait, les Africains qui ont été en contact avec l'Europe depuis les temps très anciens, le Moyen Âge, les échanges avec les Portugais, avec Venise, dans le golfe de Guinée, etc. Bon, il y a des échanges entre l'Afrique et l'Europe que l'on sait en tout cas, et probablement bien plus anciens. Donc les bateaux, les chariots des Portugais s'arrêter sur les côtes de l'Afrique. Donc, bien sûr que la roue était visible, mais ne correspondait pas au type de civilisation. Et d'ailleurs, fort judicieusement, pour maintenir un certain ordre, il fallait effectivement qu'il n'y ait pas l'usage de la roue, mais des charges qui sont portées. Donc, ça conditionne tout un ensemble de données Et d'ailleurs, on a pu entendre dire aussi que les Égyptiens n'avaient pas la roue. Les Égyptiens, évidemment, ils ont un pays où il y a beaucoup de sable et que c'était peut-être pas le moyen employé par tous les habitants de l'Égypte ancienne. Mais on sait qu'il y avait des chars et les courses de chars et aussi les armées égyptiennes, bien sûr, avaient des chariots et des roues. Donc tout ça, c'est une vision, encore une fois, je pense, qui est une espèce de racialisme imbécile et dont il faut ne pas tenir compte. Alors, je suis en train de vous dire que la technique vient après. Et là aussi, on pense que c'est la technique qui crée les changements. Alors, il y a par exemple un lieu commun qui est de dire que la modification des villes au 19e siècle, la fin du 19e siècle, et les villes modernes du 20e siècle ont été dues à l'invention de l'automobile. Alors là, l'histoire, elle est très précise. D'une part, quand Haussmann a fait les grands travaux parisiens et les grands boulevards, les automobiles n'existaient pas. Et on était dans des voitures à chevaux, dans des voitures enfin, tirées par des chevaux, et comme ça l'est depuis la nuit des temps. Donc il n'y avait pas tellement de changement par rapport, je ne sais pas, à l'époque romaine, au Moyen-Âge, à la Renaissance, par rapport à cela. Et d'ailleurs, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que les premiers magasins, les premiers grands magasins ont été créés à Paris, et le fameux Boussicaut, créateur du bon marché, faisait venir des hippomobiles, en fait des chars avec des bancs tirés par des chevaux, qui allaient dans les quartiers pour aller chercher la population qui formait sa clientèle. Et aussi, de la même manière, on avait sur l'île de la Cité des garages à étages pour les chevaux et les voitures hippomobiles. Donc on avait des parkings et on n'a pas attendu donc le parking à étages d'avoir des véhicules automobiles, ou l'invention du moteur à explosion, puisqu'en fait, ça datait de la période avant. Donc, en fait, la technique a suivi la modification, qui était la modification de société, très importante de cette époque, et pourtant, rien n'avait vraiment changé sur un plan de la technique, donc la technique est venue après. Alors, ce propos préliminaire par rapport aux Égyptiens, c'est de bien comprendre qu'en fait, je pense que la logique de l'élaboration de la Grande Pyramide n'a pas été due, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à une technique fantastique que l'on aurait oubliée, qui aurait été faite d'immenses charpentes, échafaudages, qui auraient été autour de la pyramide, des rampes qui auraient tenu, on ne sait pas comment, en fait, ou évidemment, sans parler des élucubrations sur les Martiens et sur l'Atlantide. Mais en fait, on est à la recherche d'un système technique et on a oublié que ce qui compte avant tout, ce n'est pas l'invention technique, mais c'est surtout l'organisation et la précision et la spécialisation. Donc c'est la maîtrise de choses qui sont en soi assez simple, qui peut faire la création des grands chefs-d'œuvre et des grands monuments de l'humanité. En fait, ce n'est pas Jean-Sébastien Bach, et il n'a pas des enregistrements, mais sa musique demeure, et aujourd'hui, nous avons tout un ensemble de techniques extraordinaires, mais ça ne fait pas changer la qualité musicale de notre siècle. Donc en fait, il y a je pense, cette relation avec la technique qui doit être à sa place, c'est-à-dire venant après. Et donc, on n'a pas, dans le cas de la construction de la grande pyramide, un grand mystère qui va se résoudre avec des inventions techniques. De plus, comme je vous avais dit la semaine dernière, il est non seulement peu probable, mais totalement impossible que l'architecte qui a vendu, entre guillemets, la pyramide lisse qui va être la plus grande du monde et jusqu'au XXe siècle, eh bien, le bâtiment le plus grand du monde jusqu'au XXe siècle, le plus haut en tout cas, eh bien, cet architecte, et il devait être absolument sûr de la technique, il ne pouvait projeter un chantier de cette importance qu'en maîtrisant, comme je vous l'avais dit, à la fois le budget, à la fois le temps, et le temps étant quelque chose d'essentiel. Alors par exemple, pour faire une digression sur le temps, nous avions commencé il y a quelques semaines de parler du Centre Pompidou et des 3 ans que je trouvais totalement invraisemblables pour arrêter le... de durée de chantier qui arrêtait le musée du centre Pompidou pendant une période aussi longue, attendu que dans les époques anciennes, justement quand on n'avait pas ces moyens incroyables que l'on a aujourd'hui, eh bien les chantiers étaient rapides. Et là aussi, il y a une sorte d'illusion de penser que ça mettait des siècles. Il faut penser que la vie était d'abord bien plus courte, que quand on construisait un rempart pour protéger une ville, c'était pour la protéger tout de suite et pas pour la protéger pour les siècles d'après, on la protégeait pour les habitants de l'époque et on ne construisait pas pour le futur, on construisait pour l'immédiat. Donc les places fortes, nos bastides, tout cela a été construit dans des périodes très très courtes. Quand vous voyez par exemple à Toulouse, la ZAC des ponts jumeaux qui a commencé il y a 30 ans et qui n'est pas terminée, on peut se dire qu'en fait le progrès moderne n'a pas accéléré les choses. Donc ce rapport au temps, il est lié justement à l'organisation, et les chantiers colossaux de l'Antiquité et des autres périodes que l'on peut voir, ils étaient surtout faits par un savoir-faire, par une maîtrise et technique et de spécialisation, plus que à des progrès techniques. Bon, on va faire une pause musicale et puis on va aller dans le vif du sujet sur l'explication. Thank you. Oui, alors la semaine dernière, je vous avais donné trois indices. La construction de la tour Eiffel, la construction des gratte-ciel modernes, et dernier, je vous avais dit les propos d'Hérodote, historien grec, qui, lors d'une visite, bien sûr, bien des siècles après, la construction de la Grande Pyramide, avait récolté un témoignage où on lui avait dit que la pyramide avait été construite, avec des plateformes et des machines. Alors d'abord, en préalable, je ne vais pas vous dire, comme j'entends les égyptologues qui ont proposé des solutions, on a travaillé pendant 40 ans sur ce sujet, non, c'est ce qui s'est passé en ce qui me concerne, c'est aussi bête que de regarder une émission sur RMC sur justement la construction de la Grande Pyramide et dans le. On peut dire, en regardant les différentes solutions proposées, d'avoir eu l'intuition qui était assez simple, mais qui est simplement la manière dont un architecte que je suis aurait fait dans le même cas. Voilà, c'est tout. C'était aussi simple. Et la solution, elle est, vous verrez, assez simple. Alors, la question. Comment construit-on les gratte-ciels aujourd'hui? Est-ce que pour construire les gratte-ciels, est-ce qu'on a besoin d'échafaudages extérieurs? Est-ce qu'on construit avec des rampes? Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, tombe sous le sens. Tout le monde voit bien qu'on ne construit pas les gratte-ciels et qu'on n'accroche pas les façades avec des échafaudages. Ce qui a été la même chose pour la tour Eiffel, ben on les construit de l'intérieur. Alors, on a pu parler, je vous ai parlé la dernière fois des rampes intérieures, évidemment, c'est une solution qui me paraissait absurde parce que, surtout à l'intérieur d'une pyramide, c'était quelque chose, une espèce de colimaçon avec des rampes pour pousser des pierres et pour du remplissage, ça ne marchait pas du tout. Par contre, le gratte-ciel, il arrive à monter parce qu'il y a un noyau central qui est constitué d'ascenseurs qui vont être des monte-charges pour monter les matériaux et pour construire les planchers, qui seront des plateformes sur lesquelles on va monter au fur et à mesure les planchers depuis le noyau central. Ensuite, ce noyau central, il y aura les ascenseurs définitivement qui seront utilisés pour monter aux étages. Alors, il s'agit évidemment dans la Grande Pyramide, il n'est pas question de mettre des ascenseurs par la suite, puisqu'il s'agit d'un bâtiment funéraire. Bon, plaisanterie mise à part, revenons à notre gratte-ciel. Donc, sur les plateformes de chaque étage, les ouvriers peuvent accrocher les façades et au fur et à mesure, on remonte les planchers et on monte. Manière hydraulique ou électrique, ce noyau central. Et la tour Eiffel a été construite ainsi, à partir des plateformes et d'un élément central qui a été après détruit, et les ascenseurs qui montaient les matériaux métalliques étaient donc sur les côtés de la pyramide de la tour Eiffel. Et aujourd'hui, ces monte-charges ont été transformées dans les ascenseurs que l'on peut prendre. Enfin, ils ont été transformés tout de suite en ascenseur pour le public. Donc, sur le même principe. Bien, alors, je vous avais parlé aussi que la pyramide n'avait pas bougé. Alors la pyramide, on s'est rendu compte, avec le mesure précise de notre époque, qu'en fait, elle avait 8 faces, c'est-à-dire qu'elle était légèrement, chaque face était légèrement en creux. Donc ça suppose qu'il y a à l'intérieur de la pyramide des matériaux assez souples, en tout cas, qui sont maintenus de la manière qu'un barrage est convexe pour supporter la poussée des eaux. Et donc il y a cette forme qui effectivement empêche que l'intérieur puisse pousser les parois. Et donc, le deuxième élément, c'est justement quand je vous parlais des étages des gratte-ciel, c'est de penser que la pyramide a été montée par des niveaux de 3 mètres qui correspondent à des étages. Ça veut dire qu'il y aurait 50 étages, puisqu'elle fait 150 mètres, et on monte au fur et à mesure des étages. Alors, comment fait-on ? Donc il y a un premier qui est une sorte de rempart qui est construit et qui ensuite par une ouverture, par une porte on peut dire, qui permet de monter à l'intérieur, des matériaux et par la suite de faire un étage qui soit dur, lisse, et qui permette aux ouvriers de monter et de travailler et d'accrocher les fameuses pierres triangulaires qui sont les pierres calcaires blanches de la pyramide qui la rend lisse. Alors, évidemment, je suis désolé, mais on n'est pas à la télévision et on est uniquement sur une radio. Mais je vais essayer d'être le plus descriptif possible. Alors, aussi, je reviens un peu aussi à l'arrière, la question des pierres qui sont montées. Là aussi, on a découvert qu'il y avait des chantiers, sur le chantier, les ouvriers qui vivaient avec leur famille près de la pyramide, non pas des esclaves. On a découvert, ce qui tombe sous le sens, que dans un pays où il y a ce grand Nil nourricier qui traverse le pays, on a un génie hydraulicien qui est celui des Égyptiens de l'époque, et on a toute une série de canaux et d'écluses avec un système de siphon ou de remplissage par des godets, etc. Enfin, des systèmes mécaniques actionnés par des leviers et autres qui font qu'on peut faire monter jusqu'au plateau qui est un plateau rocheux, justement pour ne pas être dans le sable du désert et qui sera le support de la pyramide. Donc, on a découvert il n'y a pas très longtemps, justement, les traces de ces bassins, mais ça tombait sous le sens. C'est à, je crois, 45 mètres de haut et les pierres n'étaient pas levées par les avions. Donc, on profite de la crue du Nil qui va faire monter les pierres. Ensuite, on va avoir donc, comme je vous disais, un premier étage qui va être constitué à la fois par une sorte de mur de pierre et un plancher à 3 mètres qui permettra de travailler. Alors, le deuxième va être, encore une fois, construit avec, à travers une deuxième porte qui va être un étage supérieur, et là, on aura la plateforme et les machines qui vont permettre le levage des pierres à 3 mètres. Alors là, les machines, on sait ce que c'est, ce sont des leviers. Les Égyptiens aujourd'hui continuent de se servir de ce qu'on appelle des chadours, c'est-à-dire des leviers pour l'eau. Mais les leviers sont connus depuis toujours. Donc, ça demande une manœuvre relativement faible. Et on peut supposer que l'intérieur de la pyramide n'est pas constitué des pierres taillées, mais qu'elle est constituée aussi des caissons, c'est-à-dire qu'on transporte de la carrière en même temps que les pierres taillées, on transporte les caissons de ce qui est débité, et c'est transporté, mélangé avec du sable. L'eau ne manque pas, la chaux et le mortier sont bien connus des Égyptiens. Le mortier, le soleil, l'eau font que rapidement on peut construire une plateforme qui permet en toute sécurité de travailler depuis l'intérieur de la pyramide jusqu'au rebord et de permettre sur cette plateforme de faire rouler les pierres d'une manière simple. Donc on peut penser que sur les parois, il y a des paniers avec des poulies qui montent. Donc on a une population d'ouvriers, à la fois des manutentionnaires qui vont monter le sable, les caissons, et puis on a de notre côté des gens bien plus spécialisés pour la pose et l'ajustement des pierres avec des machines, avec des leviers qui peuvent rouler. Alors, pour la chambre centrale, évidemment, elle est amenée en rez-de-chaussée, elle sort donc du canal et elle est glissée au bas de la pyramide au milieu. Et là, de part et d'autre, justement, dans une sorte de coffrage glissant, comme on peut dire aujourd'hui, dans les chantiers pour construire des parkings en sous-sol, mais on a des machines en batterie qui sont donc des leviers, et avec un nombre relativement faible, puisqu'on sait que le levier va multiplier la force d'une manière 10 fois, on peut arriver à faire monter la pierre d'un niveau sur l'autre. On remblait par en dessous où on laisse un vide suivant le niveau dans lequel on est. Évidemment, tout cela est fait d'une manière extrêmement précise, avec une précision qui est au millimètre. Donc il s'agit de procédés relativement simples, mais surtout maîtrisés par une main-d'œuvre spécialisée, par des géomètres qui ont en permanence le niveau. Le niveau, ben, il sera fait par une sorte de petit canal avec l'eau, où on a un niveau zéro absolument parfait et qui permet d'avoir des ajustements millimétriques, ce qui est le cas. Donc, on monte les niveaux les uns sur les autres. Donc le grand avantage aussi, c'est qu'on a une sorte de pile d'assiette qui fait que la pyramide est indéformable. On n'a pas un élément mou à l'intérieur, ou du moins qui serait non statique et non tenu par des pierres. Et on a une série d'assiettes les unes sur les autres qui fait que quand il y a eu des secousses sismiques très importantes, le bâtiment n'a pas bougé parce qu'il est parfaitement statique avec l'empilement des assiettes qui sont les étages. Donc on monte les étages les uns après les autres, donc il y a une grande fermeture éclair au milieu de la pyramide, et on a donc, avec les machines qui montent les unes après les autres au fur et à mesure, on referme l'étage et on passe à l'étage supérieur. Et jusque, évidemment, on a fait monter en même temps la chambre funéraire, et puis on finit jusque au pyramidum qui va être une pierre qui est montée aussi en même temps que le reste depuis le bas. Donc ensuite, quand on ferme une fermeture éclair depuis en haut, on va défaire les machines et on va fermer la crémaillère centrale. Et je vous rappelle, donc on a monté avec des paniers le long des parois, et effectivement les parois obliques sont plus faciles que des parois verticales pour faire une sorte de noria permanente de sable et de caissons et d'eau également, et de chaux pour faire le mortier des étages. Donc, on arrive jusqu'à la fin, et on peut dire que cette pyramide, elle monte justement sans artifice, et que une des raisons peut-être pour lesquelles on n'a pas eu de dessin, c'est qu'en fait, la population devait être tenue à distance, et voyez cette pyramide blanche qui montait dans le ciel et dans le désert, et ça faisait partie aussi, certainement, du mystère et de ce qu'avait vendu l'architecte au pharaon, c'est-à-dire qu'on voyait monter cette pyramide blanche dans le désert sans savoir très bien comment elle montait, puisqu'il n'y avait rien à l'extérieur d'artifice, de rampe, ni d'échafaudage. Bon, voilà, donc c'était l'explication qui me paraît être simple, et comme toujours, les explications les plus simples, ben, sont les meilleures. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.